Si j'étais réalisateur de cinéma, je ne suis pas, et je devais faire un film sur la vie de Noé, sur le déluge, je serais bien tenté, j'imagine vous aussi, de terminer mon film au verset 17 du chapitre 9. Qu'est-ce que nous voyons de Noé dans les chapitres 6 au verset jusqu'au chapitre 9, verset 17? Nous voyons un homme de foi. Nous voyons un homme juste, un homme irréprochable, un homme qui a cru, un homme qui a obéi à Dieu. Nous voyons un homme qui a persévéré malgré tout. Nous voyons un homme qui marche avec Dieu, un homme pieux au milieu d'une génération bien corrompue. Et si le récit de la vie de Noé s'arrêtait là, ce serait bien, n'est-ce pas? Le récit finit, je l'ai dit tout à l'heure, avec Noé en train de regarder l'arc-en-ciel avec ses bras autour de ses familles en disant: Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça que le récit de Noé se termine. Le récit du déluge, une victoire pour la foi, est suivi par une histoire de péché, de honte, d'ivrognerie et d'immoralité sexuelle. On est tenté de dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça finisse comme ça. Et nous devons nous poser la question, pourquoi cet épisode si triste est-il inclus dans le texte biblique? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de nous raconter cette histoire? À quoi sert-elle? Quelle est sa place dans l'histoire du plan de rédemption de Dieu? Dans l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite dans le jardin, quand il a dit qu'il allait envoyer quelqu'un pour écraser Satan, pour écraser le mal, pour vaincre le mal. Comment cette histoire, où est sa place dans cette histoire de rédemption? Est-ce que nous aurions perdu quelque chose si cette histoire avait été absente de la Bible? Comment cet épisode sert-il à avancer l'accomplissement de la promesse de Dieu? Et pour examiner ce passage et répondre à ces questions, je veux le diviser en trois parties. D'abord, le péché de Noé, ensuite la réaction des fils, et pour terminer, une annonce de grâce. Péché de Noé, réaction des fils et une annonce de grâce. Et nous verrons des choses tristes, mais nous verrons aussi la grâce de Dieu, que Dieu est à l'œuvre, même au sein de cette histoire triste. D'abord, le péché de Noé. Verset 20, Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Jusqu'ici, pas de problème. Noé n'est pas critiqué pour la production du vin. Il n'y a pas de péché dedans. Verset 21, il but du vin, toujours pas de mal dedans. La Bible ne dit pas de ne pas boire du vin. Alors c'est où le péché de Noé? Continue avec verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Le péché de Noé n'est pas de boire du vin, c'est d'en boire trop. Il s'enivre. Et c'est la première fois que le vin ou l'alcool est mentionné dans la Bible. Mais nous ne devons pas penser que Noé ignorait ce qui se passerait s'il en buvait trop. Le péché était boire à l'excès, de s'enivrer. Et à partir de ce moment, la Bible souligne à maintes reprises le danger de l'alcool et que c'est un péché de s'enivrer. Je cite quelques versets. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Vous voyez ce mot excès? N'est pas sage. Proverbe 20, verset 1. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Et Paul écrit, ça c'était Proverbe 23, Paul écrit dans Romains 13, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. Et comme est souvent le cas, le péché de boire trop d'alcool, de s'enivrer, n'existe pas en isolation. Nous savons qu'un péché particulier mène souvent à un autre et à un autre. Pensez au roi David, on en a déjà parlé. Il commet adultère dans son cœur quand il permet à ses yeux de regarder Bathsheba. Après, il la prend pour lui-même, il commet adultère avec elle. Après, il fait tuer son mari et pendant longtemps, il cache ça, il vit un mensonge. Le premier péché mène à un deuxième, qui mène à un troisième, et vous voyez l'engrenage. Et un péché, ici de Noé, mène à un autre. Le verset 21 dit, « Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. » L'ivresse de Noé mène à son impudeur. Il s'allonge tout nu. Et il est difficile de dire avec précision, être sûr à 100%, mais cette phrase « se découvrit au milieu de sa tente », il y en a qui suggèrent qu'il y a quelque chose de pire dedans, il y a de l'immoralité sexuelle dedans. On ne peut pas dire, on ne peut pas être sûr, mais il est possible. On a du mal à croire, n'est-ce pas, que c'est le même homme qui avait passé 100 ans à construire l'arche, qui avait obéi à tout ce que Dieu lui avait dit, malgré la moquerie de ses contemporains, qui avait exhorté sa famille à monter dans l'arche avec lui, qui avait prêché du jugement de Dieu pendant de longues années. On a vraiment du mal, n'est-ce pas, à penser. C'est lui qui est en train de s'enivrer et qui est tout nu dans sa tente. C'est lui qui est sorti de l'arche, qui a offert des holocaustes à Dieu, qui a loué le Seigneur, qui s'est consacré à Dieu, et le voilà dans son ivresse et sa nudité. C'est le même homme. Et le texte biblique décrit cette magnifique alliance faite par Dieu avec Noé. Et la prochaine fois que nous lisons, c'est Noé dans son péché. Et c'est vraiment triste. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous voyions dedans? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Je propose plusieurs choses. D'abord, il y a un avertissement. Un avertissement. N'importe quel chrétien peut, à n'importe quel moment, tomber dans le péché. Et le péché grave. Aucun chrétien ne peut dire... Moi, je ne ferai jamais ça. Je l'ai dit déjà, Moïse a tué un homme. David a commis adultère et un meurtre. Pierre, qui avait passé 3 ans avec Jésus, son meilleur ami, l'a renié 3 fois pendant que Jésus était sur le point de mourir pour lui. Et Noé, un héros de la foi, un prédicateur de justice, il s'enivre, il s'expose tout nu dans sa tente. Et si eux, ils peuvent faire ça, ne pensez pas, mes amis, ne pensez pas que vous ne pouvez jamais tomber dans un péché grave. Peu importe ce que vous avez fait au service du Seigneur, peu importe, vous pouvez tous tomber dans le péché grave. Paul écrit aux Corinthiens que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Jésus avertit ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Devant votre ordinateur, devant la télé, ou travaillez avec un collègue ou une collègue, ne surestimez pas votre capacité de résister à la tentation. Ne sous-estimez pas la force de la tentation. Ne baissez pas votre garde. Mettez en place des sauvegardes pour vous empêcher de tomber. Je pense à Billy Graham, le prédicateur américain. Il a refusé de se trouver seul avec une femme autre que sa femme pour ne pas ouvrir la porte à la tentation. Il mettait des sauvegardes en place pour qu'il ne chute pas. Il savait, il connaissait son propre cœur. Il savait ce dont Satan était capable. Et c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, quand il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le bien loin de toi. Si ton œil te fait chuter, arrache-le. Mets des sauvegardes en place pour t'empêcher de chuter. Et si ta main droite, même si elle est précieuse, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Fais ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le péché. Un avertissement pour nous tous. Mais je veux aussi voir l'image large de ce qui se passe ici. Et n'oubliez pas que le récit de l'échec de Noé fait partie d'une plus grande histoire. Et je pense que nous devons voir dans cette histoire des similarités avec la chute d'Adam. C'est au moment d'un nouveau départ pour l'humanité, tout comme Adam. Comme Adam, Noé est agriculteur. Comme Adam, Noé prend du fruit qu'il ne devait pas prendre. Comme Adam, Noé se trouve tout nu. Comme Adam, Noé est couvert de honte. Comme Adam, il y avait des conséquences catastrophiques pour sa descendance. Et dans un sens, nous avons déjà vu, Noé est comme un deuxième Adam. C'est un nouveau commencement pour l'humanité. Et on regarde la vie de Noé jusqu'au chapitre 9 et on est tenté de dire, est-ce Noé qui va accomplir la promesse de Dieu? Est-ce Noé qui va vaincre le mal? Est-ce Noé qui va écraser la tête de Satan? Et même s'il mène une vie de d'obéissance, même s'il marche avec Dieu, Noé, c'est un homme pécheur. Noé, c'est un homme qui a besoin d'un sauveur. Donc, ça nous aide à voir si nous cherchons, si nous recherchons le Messie en Noé. Non, ce n'est pas Noé. Il faut continuer à chercher. Ce récit nous encourage à chercher le sauveur ailleurs. Quelqu'un viendra, a dit Dieu. Quelqu'un sera envoyé pour Dieu qui résistera à la tentation, qui vaincra le mal, qui fera ce que Noé et Adam n'ont pas été capables de faire, qui accomplira toute la loi de Dieu. Ce récit, mes amis, nous prépare pour Jésus-Christ. Et nous tous, je l'ai dit aux enfants, nous tous, nous avons besoin de ce sauveur. Nous sommes tous pécheurs comme Noé. Si on avait une échelle de justice et de piété, on mettrait Noé là, je pense. Et qui parmi nous se mettrait avec Noé? Ben non, on se voit tout en bas. Donc si Noé a besoin d'un sauveur, combien plus forte raison nous avons besoin d'un sauveur? Nous chutons tous. Et Jésus seul puisse nous racheter de notre péché. Donc voilà le péché de Noé. En deuxième lieu, la réaction, nous voyons la réaction des fils. Et bien que le péché de Noé nous choque, c'est le péché de Cham qui est le plus grave dans cette histoire. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Le texte dit qu'il vit la nudité de son père, mais l'originel semble dire qu'il le vit, qu'il la vit et qu'il la regarda fixement. Il n'a pas vu, et puis des fois on voit des choses et on sait, ah, je ne devrais pas regarder ça, mais je l'ai vu, mais je ne continue pas à regarder. On passe devant, quelque chose passe à la télé, on dit, ah ben là, je ne regarde pas, je change, j'éteins. Mais lui, il ne fait pas ça. Il voit et il continue à regarder, il regarde fixement son père, il prend un plaisir pervers dans l'impudeur et la honte de son père. Il se délecte à le regarder tout nu. Il n'est pas peiné, il n'est pas gêné par la situation de son père. Et plusieurs commentateurs disent qu'il est même excité par ce qu'il voit. Le texte ne le dit pas, mais derrière, c'est peut-être cette idée. Cham manque surtout de respect pour son père. Malgré tout ce que Noé avait fait pour lui, il lui avait sauvé la vie. Il avait été un modèle de piété et de foi. Mais ce fils se moque de son père et prend plaisir dedans. Et pire que ça, il sort et il invite ses frères à faire pareil. Au lieu de couvrir son père, au lieu de restaurer sa dignité, si cette histoire était en 2018, Shem aurait sorti son portable, il aurait pris des photos, il aurait envoyé tout de suite à ses frères en disant « Regardez ça !» Et les photos auraient été mises sur Facebook de Shem. Mais que font Sem et Japhet? Comment réagissent-ils? Verset 23. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant, pas facile à faire, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Ces deux fils se donnent beaucoup de peine de ne pas voir leur père dans sa honte. Ce n'est pas facile de faire ce qu'ils ont fait. De prendre le manteau, de reculer comme ça, ce n'est pas facile. Sans regarder, ils se donnent beaucoup de peine. Ils veulent à tout prix que cette image de leur père ne soit pas gravée dans leur esprit. Ils ne veulent pas voir le péché et la honte de leur père. Et même si Dieu n'avait pas encore donné le commandement d'honorer son père et sa mère, ces deux hommes savent qu'il fallait le faire. Ils n'allaient pas prendre plaisir dans le péché, dans la honte de leur père. Et ces deux réactions de Shem et de Sem et Japhet nous poussent à bien examiner notre cœur. Comment est-ce que nous réagissons au péché des autres, surtout au péché des chrétiens? Sommes-nous peinés, sincèrement peinés par l'échec moral des chrétiens? Sommes-nous peinés par la chute publique des chrétiens? Ou sommes-nous vite à condamner et à juger? Y a-t-il quelque chose en vous qui aime regarder la honte des autres, qui le regarde fixement comme Shem a fait? Y a-t-il ce côté pharisaïque qui dit « Merci Seigneur que je ne sois pas comme ça. Moi, je n'aurais jamais fait ça. » Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui semblent prendre plaisir à exposer les échecs des autres. Dès qu'il y a la moindre indiscrétion, hop, c'est posté sur Facebook. Je vous l'avais bien dit de se méfier de celui-là. Regardez ce qu'il a fait. Au lieu de prier pour la personne qui chute, au lieu de chercher à le restaurer, à l'encourager, nous disons terrible ça. Et nous cherchons à annoncer cette mauvaise nouvelle aux autres, tout discrètement bien sûr, et sans prendre le moindre plaisir dedans. C'est pas que j'aime bien vous dire ça, mais vous devez savoir que... Mais en nous, il y a quelque chose qui aime ça. Parce que ça fait que les autres pensent mieux de nous. Moi, je ferais pas ça. On ferait pas ça, n'est-ce pas? Comment devrions-nous réagir? C'est vrai que de temps en temps, nous devons faire face aux péchés graves des autres. Dans l'Église, ça arrive que quelqu'un chute et la chute a des conséquences graves pour la personne et pour les autres. Je me souviens d'un cas dans mon ancienne Église. If you're following this in the text, this isn't in the text, I'm sorry. Je me souviens d'un cas dans mon ancienne Église où deux jeunes sont tombés dans le péché. C'était bien connu et les anciens, le pasteur a dû s'adresser à toute l'église pour dire « Voilà ce qui s'est passé, c'est pas bien, mais nous voulons restaurer ces jeunes. Nous voulons les aider, nous voulons leur pardonner. Ils ont exprimé leurs regrets, ils ont demandé pardon. Voilà ce qui s'est passé, nous préférons que vous sachiez de nous au lieu d'entendre ailleurs. » Donc des fois on doit faire face au péché grave. Dans l'Église, ça arrive. Il faut y faire face. mais il ne faut jamais prendre plaisir dedans. Et si je peux dire, je ne sais pas combien de fois, c'est pas du tout pour me vanter, mais je ne sais, parce que je suis coupable de ça. Des fois, j'ai pris plaisir dans la chute des autres. Mais je ne sais pas combien de fois j'ai été tenté de dire aux gens, est-ce que vous savez ce que ces deux jeunes ont fait? Quand on parle de ces jeunes qui sont maintenant au service du Seigneur, et je me suis trouvé avec ce désir de dire, ah oui, mais si vous saviez, il ne faut pas le faire. J'ai ressenti ce désir monter en moi. S'il faut agir suite au péché, il faut que ce soit dans l'amour, avec le désir de restaurer. Nous sommes souvent trop vite à condamner. Nous voyons la chute, mais nous ne savons pas à quel point la personne a essayé de résister. Nous voyons la chute et nous condamnons. Nous jugeons, nous manquons de compassion. Nous sommes comme les gens décrits dans Proverbe 14. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Paul écrit aux Galates, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et puis Jésus dit dans Luc 17, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Mes amis, quand un frère ou une sœur tombe dans le péché, agissons avec lui, envers elle, avec respect, avec amour, avec compassion. Ne disons pas que leur péché n'est pas grave, mais cherchons à restaurer la personne qui tombe. Un jour, ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous. Donc voilà deux réactions bien différentes au péché de Noé. Le péché de Noé, la réaction des fils, et puis pour terminer, une annonce de grâce. On pourrait penser que le but de ce passage, c'est de nous avertir du danger du péché, ou de nous montrer comment réagir au péché, face au péché des autres. Mais je ne pense pas que ce soit le but de ce passage. Nous arrivons à la fin d'une des sections de ce livre. Je vous ai dit par le passé qu'il y a plusieurs sections. Une nouvelle section commencera au chapitre 10. Si vous regardez le verset 1, vous verrez, voici la prospérité des fils de Noé. À chaque fois qu'on voit cette petite phrase, on sait, voilà une nouvelle section de ce livre. Et le livre de la Genèse nous explique le commencement de l'histoire de l'humanité. Il nous explique l'histoire du plan de salut de Dieu, du plan de rédemption. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait une promesse à Satan, « Un descendant de la femme viendra pour écraser ta tête, Satan, pour vaincre le mal, pour restaurer la paix entre l'homme et Dieu. » Et tout de suite, après cette promesse, on pose la question, « Qui est celui qui viendra? Est-ce Caïn ?» Et puis on a vu, non, ce n'est pas Caïn, celui-là, c'est un meurtrier. Et puis on pose la question, « Est-ce Noé ?» Et on est tenté, je viens de le dire, on est tenté de penser, « Ah, peut-être, bien, parce que là, il obéit, mais non, ce n'est pas Noé. » Donc, les recherches continuent. Et les versets 25 à 29 recentrent nos recherches, encore une fois. Dans ces versets, nous voyons une prophétie de la part de Noé. Ce n'est pas que Noé se réveille de son ivresse et il est tout en colère et il dit, « Alors, qui s'est moqué de moi ?» Non, ce n'est pas ça. Noé, ici, est guidé, dirigé par l'Esprit de Dieu. Et il explique ce qui va arriver dans les années, voire des siècles à venir. Et il prononce d'abord une malédiction et ensuite une bénédiction. Et c'est intéressant, regardez bien ce qu'il dit. Il prononce une malédiction non pas sur Cham, qu'il avait vu, qui s'était moqué de lui, mais sur son fils cadet, sur le fils cadet de Cham, sur Canaan. Alors pourquoi? Pourquoi sur le fils cadet de Cham et non pas sur Cham? Si vous avez une réponse à cette question, j'aimerais bien le savoir. J'ai lu toutes sortes d'explications. Je ne suis pas convaincu, il faut dire, des explications que j'ai lues. Il y en a qui disent que Noé ne pouvait pas maudire Cham parce que Dieu l'avait déjà béni. Peut-être. Il y en a qui disent que c'est peut-être parce que Canaan était le fils cadet de Cham et Cham était le fils cadet de Noé. Donc ça correspondait à peu près. Il ne voulait pas maudire Cham, donc il a maudit son fils cadet. Il y en a qui disent que Canaan était peut-être là avec son père quand il était dans la tente. Mais là, le texte ne le dit pas. On ne peut pas dire ça. Il y en a qui disent aussi que Noé avait déjà repéré en Canaan un esprit un peu méchant. Un côté pervers un petit peu. Il reconnaissait quelque chose en lui. Il dit, celui-là, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on dit? Une mauvaise pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre. C'est une expression en français. Mais il était un peu comme son père, celui-là. On ne sait pas. En tout cas, c'est Canaan qui est maudit. Mais ce n'est pas toute la famille de Cham qui est maudite. C'est que le fils cadet et ses descendants. Verset 25. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Encore au verset 26. Que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Canaan soit leur esclave. Et nous pouvons lire ces versets sans trop comprendre la signification de cette malédiction. Et c'est là où il faut revenir au sens premier du texte. Qui étaient les premiers à lire ou à entendre ce texte? Parce que c'était le peuple de Dieu sorti d'Égypte. Le peuple de Dieu dans le désert. C'était le peuple de Dieu qui allait bientôt combattre qui? Les descendants de Canaan. Donc, ils devaient battre ce peuple, les descendants de Canaan, pour prendre possession de la terre promise. Donc Dieu ici veut rassurer son peuple. Voilà pourquoi c'était mentionné au début, je vous avais dit, Cham, père de Canaan. Voilà, l'auteur veut attirer notre attention sur ce peuple de Canaan. Contre ceux contre qui vous allez vous battre, Dieu dit, ils sont déjà maudits. Ils seront vos esclaves. Vous aurez la victoire. L'accomplissement de cette malédiction est certain. Les descendants de Canaan ont été jugés par Dieu. Surtout si vous lisez Lévitique 18, je n'ai pas lu ce matin, mais ils sont jugés surtout pour leurs pratiques iniques et perverses, pour leur immoralité sexuelle. Canaan est maudit et ça aura des conséquences énormes pour le peuple de Dieu. Donc, Dieu est en train de recentrer le caméra, si vous voulez, pour que nous voyons ce qui va se passer dans les années à venir. Mais il n'y a pas seulement cette malédiction, il y a aussi des bénédictions au verset 26 et 27. Voyons d'abord la bénédiction sur Sem, et là, c'est hyper important. Vous avez dit, Andrew, qu'il y a une annonce de grâce. C'est là, l'annonce de grâce. Béni, et encore une fois, regardez bien ce qui est dit. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Il ne dit pas béni soit Sem. Il dit béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Par la bouche de Noé, Dieu déclare qu'il a choisi Sem et qu'il sera le Dieu de Sem, qu'il bénira Sem et qu'il fera de Sem une bénédiction grâce à sa relation avec Dieu. Il faut savoir que Sem sera le père du peuple sémite. Et au chapitre 11, nous verrons la postérité de Sem, y compris Terah, qui est le père de Abraham, à qui Dieu a fait la promesse, « Je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations de la terre. » Vous voyez ce que Dieu est en train de faire ici? Et nous voyons dans Luc 2, dans la généalogie de Jésus, la généalogie du Messie, celui qui est venu pour écraser Satan, qu'il est un descendant d'Abraham, qui est un descendant de Sem. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Voilà une grande promesse pour le plan de rédemption de Dieu. Dieu sera béni, Dieu sera glorifié par un descendant de la ligne de Sem. Béni soit le Dieu de sème. Cette bénédiction nous aide dans nos recherches pour le Messie. Elle nous prépare pour une plus grande bénédiction. Nous lisons dans Éphésiens 1, verset 3. Vous allez reconnaître ces paroles. Béni soit le Dieu, on vient de lire béni soit le Dieu de Sème. Ce verset en Éphésiens dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et la bénédiction est pour la famille de Japhet aussi. Regardez le verset 27. Que Dieu mette Japhet au large et qu'il demeure dans les tentes de Sem. Le prénom Japhet veut dire élargir. Et c'est exactement ce que font les descendants de Japhet. Nous le verrons au chapitre 10. Mais la deuxième partie de la bénédiction de Japhet nous révèle encore plus. Qu'il demeure dans les tentes de Sem. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite phrase veut dire que lui aussi, il profite de la bénédiction prononcée sur Sem, qu'il profite de la vie de Sem, du destin de Sem, qu'il soit béni par le Dieu de Sem. Nous avons vu que la bénédiction de Sem est une bénédiction spirituelle, une relation d'une promesse avec Dieu, de la bénédiction de Dieu. Et Japhet aussi va profiter de cette bénédiction. Cette bénédiction ne sera pas limitée au peuple sémite, au peuple juif, mais elle sera pour toutes les nations. Elle sera pour vous, pour nous. Noé dit qu'un jour, les descendants de Japhet seront bénis par un descendant de Sem. Il prévoit un jour où les nations seront bénies par le descendant de Sem. Voilà encore une fois une annonce de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle annoncée à toutes les nations en Jésus-Christ. Cet épisode, mes amis, a commencé avec une histoire bien triste, avec un échec, une chute dans le péché. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité dans sa honte, dans son péché. Dieu agit dans sa grâce. Dieu promet de sauver, de bénir. Sem est l'ancêtre d'Abraham. Et Paul dit dans son épître aux Galates, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, descendant de Sem, ou de Japhet, qui est béni de Sem. » Sem et Japhet, mes amis, ont agi pour couvrir le péché de leur père. Et Jésus-Christ, le descendant de Sem, lui, il a agi pour couvrir le péché du monde. Pour couvrir mon péché, votre péché. Jésus a pris notre péché, notre honte sur lui, sur la croix, et il a couvert notre honte de son sang. Et la grâce de Dieu est offerte maintenant à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues. Dieu transforme une situation de péché et de honte. Et Dieu peut faire ça dans votre vie. Il peut transformer une situation de honte et de péché. Il couvrira votre honte, votre péché. Il le couvrira du sang de son Fils, le descendant de Sem. Il vous invite à venir demeurer, non pas en étant de Sem, mais à demeurer en Jésus-Christ, à demeurer en la maison de Dieu lui-même. C'est magnifique cette histoire, c'est magnifique. Au début, quand j'ai dit c'est terrible cette histoire, je savais que c'était pas si c'est terrible, mais elle est magnifique. Parce que c'est une démonstration magnifique de la grâce de Dieu pour les nations. Béni soit le Dieu de Noé. Béni soit le Dieu de Sem, le Dieu d'Abraham. Et surtout, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ. Amen. Nous voulons passer quelques moments dans la prière.